radio de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Emmanuel Amani.
12h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, voici les titres. Les conseillers municipaux du département de Biankouma étaient dans les urnes hier mardi pour procéder à l'installation de la nouvelle équipe pour les 5 prochaines années. Plus de précisions à ce sujet dans ce journal. La FAO initie une rencontre sur l'évaluation des ressources forestières mondiales à laquelle participent 25 correspondants des pays d'Afrique francophone, un atelier sous-régional qui se tient du 18 au 21 septembre 2023 à Grand Bassam et présidé par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts. Hors de la Côte d'Ivoire, nous irons au Burkina Faso où l'Assemblée législative de transition adopte un projet de loi autorisant l'envoi de troupes militaires au Niger. Et dans cette édition, l'invité de la rédaction, Doumbia Ibrahima, le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP, répond aux questions de Soro Adams sur le scrutin du 16 septembre et sur le score de son parti. Bienvenue sur Radio de la Paix. Nous ouvrons ce bulletin avec la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le vice-président de la République, Tiémoko Méliékone, a pris part ce mardi 19 septembre 2023 à New York à l'ouverture et à la première séance plénière du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Le vice-président de la République s'est par la suite entretenu avec le président de la République de Corée, son Excellence Monsieur Yoon Suk-yeol, et la vice-secrétaire générale des Nations Unies, présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Madame Amina Mohamed. Notons que l'intervention du vice-président Tiémoko Méliékone à la séance plénière du débat général au nom du chef de l'État Alassane Ouattara est prévue pour le jeudi 21 septembre 2023. 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, cela fait 21 ans que la Côte d'Ivoire avait connu en débat un début de crise militaire mué plus tard en rébellion. Aujourd'hui, cette situation est sur le point d'être oubliée par les populations, surtout jeunes. Pourtant, selon le chef du bureau Côte d'Ivoire de la fondation Friedrich Neumann, il faut s'en souvenir afin d'éviter qu'une telle crise ne se reproduise. Magloire Ndeye est joint par Junior Cardin.
Le 19 septembre marque une date très grave. On peut dire qu'après la lutte pour les indépendances, l'une des plus graves crises que la Côte d'Ivoire a connue, c'est la crise du 19 septembre 2002. Malheureusement, nous constatons depuis quelques années que cette date passe inaperçue. J'ai essayé cette semaine d'interroger quelques jeunes qui ont autour de 20 ans, 22 ans. J'ai été surpris de voir que ces jeunes-là ne savaient rien du 19 septembre, malheureusement. Si tous ces jeunes qui sont appelés à diriger la Côte d'Ivoire de demain ne savent pas que la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise en 2002, je pense qu'on doit s'inquiéter de cette situation.
Qu'est-ce qui doit être fait alors pour éviter cet oubli-là chez les jeunes?
Oui, il faut des événements, des programmes par exemple d'éducation, intégrer cette histoire dans le système éducatif pour que les gens apprennent ce qui s'est passé. Il faut des événements commémoratifs annuellement. Il faut des initiatives de documentation historique qui permettent de relire cette histoire. Mais surtout, je proposais donc la création d'un musée où on pourra trouver des photos, des portraits. On pourra trouver même les accords qui ont été signés au cours donc de la résolution de cette crise. Tout cela permettra donc de garder la mémoire. Il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort, mais il s'agit de regarder les faits, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut s'en souvenir régulièrement et pour éviter qu'on retombe encore dans cette crise.
À l'instant, Magloire NDI, joint par Junior Cardin. Lien entre extrémisme violent et activité illicite en Côte d'Ivoire, c'est l'intitulé du récent rapport de l'Institut d'études de sécurité, ISS, qui s'est intéressé au lien entre extrémisme violent et activité illicite dans les régions frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Sur les raisons qui ont motivé la rédaction de ce rapport, ainsi que certains de ses principaux enseignements, écoutons son rédacteur, William Assonvo. Il est le chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac du Tchad.
Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche régional qui a été mené à la demande du Conseil de l'Entente et en Côte d'Ivoire avec l'appui institutionnel de la Commission nationale des frontières. C'est un projet qui couvrait trois pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin.
Quels sont les principaux enseignements que l'on doit retenir de ce rapport?
Il y a plusieurs enseignements et messages importants à garder à l'esprit. C'est la nécessité de ne pas appréhender cette menace uniquement sous l'angle des attaques, et prendre aussi conscience des efforts souterrains de la manifestation invisible de cette menace. C'est toute une infrastructure que ces groupes essaient de mettre en place. Donc, il faut véritablement penser l'action et l'activisme de ces groupes-là, y compris en termes de recrutement, de manière très large possible. Il y a aussi la nécessité de ne pas stigmatiser les acteurs économiques qui se sont retrouvés à collaborer avec ces groupes, parce qu'ils étaient souvent dans des circonstances qui véritablement les rendaient vulnérables à cette possibilité. Il est important aussi de pouvoir, compte tenu de la nature transfrontalière de la menace de l'extrémisme violent et aussi des activités illicites, des trafics, de pouvoir renforcer la coopération régionale transfrontalière avec les pays voisins.
Interrogé par Aoussi Potin, William Assonvo, chercheur principal et au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac du Tchad. Le vote du maire de Daloa et de ses adjoints s'est déroulé hier. Les conseillers municipaux ont réélu le maire Boli Stéphane Auguste à la tête du conseil municipal de Daloa pour un autre mandat de 5 ans. Ils sont au total 60 conseillers dont 58 votants. Le maire tête de liste du RHDP et les conseillers de l'opposition entendent travailler en symbiose pour relever les défis du développement de la commune. Jean-Noël Kwame.
Après sa réélection par 54 conseillers sur les 58 votants, le maire Stéphane Belli a invité l'ensemble des conseillers à la cohésion pour le développement de la commune de Daloa.
Nous devons donc évoluer main dans la main. Beaucoup de projets sont en cours. La construction de l'hôtel de ville. Nous devons donc reprendre de plus belle la construction du grand marché. Nous avons un vaste programme donc d'assainissement qui sera lancé d'ici 2 semaines dans le Haut-Sassandra. Nous avons eu une élection sans heurts. Nous devons continuer dans ce sens-là. Parler de cohésion, sensibiliser au maximum donc les populations sur le service.
Les conseillers issus de l'alliance PDCI-RDA-PPACI et les indépendants entendent apporter leur contribution pour répondre aux attentes des populations.
Docteur Dokona et Frem, allons faire mains et pieds de faire en sorte que nous puissions avoir un marché. Pour le bonheur de nos parents, il faut aussi que nous terminions l'hôtel de ville. Une grande ville comme Daloa, c'est déplorable que nous assistions souvent à des divagations d'animaux. Que nos rues, pour la plupart, soient bitumées.
Chèque Touré, nous avons un problème de centre de santé de proximité. Les gens ne peuvent pas quitter à des kilomètres juste pour venir accoucher dans un seul hôpital. Et même les écoles de proximité, les élèves se retrouvent nombreux dans les classes. Voici autant de boucles.
Le préfet de région, préfet du département de Daloa, Kwame Kofi, qui chapeautait ces élections, a encouragé l'ensemble des conseillers à avoir un esprit d'équipe autour du maire Stéphane Belli pour la réalisation des infrastructures nécessaires au développement de la commune de Daloa. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Les conseillers municipaux du département de Biankouma étaient dans les urnes ce mardi 19 septembre pour procéder à l'installation de la nouvelle équipe pour les 5 prochaines années. Des élus chargés de diriger la commune de Biankouma et d'apporter des solutions aux préoccupations de leurs futurs administrés. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkoui.
Au nombre de 35 conseillers municipaux, 33 ont répondu présent à l'appel. Le préfet du département de Biankouma, Soro Fatogoma, situe le cadre de la rencontre.
Au préfet du département de Biankouma, votre serviteur, assurant la tutelle déléguée des collectivités territoriales, de procéder ce jour à l'installation des nouveaux conseillers que vous êtes, l'élection du maire et des adjoints au maire.
8 heures, c'est le temps mis pour sortir de l'urne la nouvelle équipe de la municipalité de Biankouma. Kouma en qualité de secrétaire, Tokpa Gérard en dit plus.
Effectif légal du conseil municipal, 35, était présent, 33 conseillers, le maire et les agents au maire de la commune de Biankouma, élus ce jour sont. Maire Baja Jacques Maniga, premier agent au maire, Boa Bamba, deuxième agent au maire, Tia Prosper Gounetti, troisième agent au maire, Mori Diomandé, quatrième agent au maire, Gaston Diomandé.
En fin de délibération des résultats, le préfet Soro Fatogoma a prodigué des conseils aux nouveaux dirigeants de la mairie de Biankouma.
Il faut assister aux réunions du conseil parce que c'est là que vous construisez l'avenir de la commune, le développement de la commune. Si vous ne venez pas, la loi permet qu'on vous enlève du conseil. On peut le faire et c'est valable pour vous tous.
Écho favorable, traduit ici par le maire reconduit, Maniga Gba Jean-Jacques.
Je suis très heureux de l'ambiance qui a prévalu. Il s'agit de faire la conjugaison de nos efforts et intelligence. On offrit aux parents ce qu'ils attendent de nous, le développement local qui est notre mission.
Un repas d'ensemble a mis fin à cette journée de vote. Stéphane Adams, Biankouma, Radio de la Paix.
Grand Bassam abrite du 18 au 21 septembre 2023 un atelier sous-régional de renforcement des capacités des points focaux de l'Afrique francophone pour la finalisation des rapports nationaux dénommés FRA 2025. Cette rencontre sur l'évaluation des ressources forestières mondiales est une initiative de la FAO à laquelle prennent part 25 correspondants nationaux des pays d'Afrique francophone et présidée par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts. Jean-Claude Mabéa était à la cérémonie d'ouverture officielle ce lundi 18 septembre 2023, suivant son compte-rendu.
Quel est l'état des ressources forestières mondiales et quelle est la situation des forêts en Afrique et principalement en Afrique francophone? Moussa Samarou, lieutenant-colonel des Eaux et Forêts du Togo, l'un des participants, a présenté la situation qui prévaut dans son pays.
Au niveau du Togo, ce que nous avons fait depuis 2015, il y a une cartographie qui a permis d'avoir une situation des ressources forestières au niveau du Togo. Et le couvert forestier était de 24,24% à l'échelle nationale.
Et c'est le constat fait dans les 25 pays d'Afrique francophone qui prennent part à cet atelier régional dont les objectifs ont été dévoilés par Ataer Maïga, le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, en Côte d'Ivoire.
L'objectif global de l'atelier est de fournir aux correspondants nationaux que vous êtes un soutien technique pour la finalisation des rapports nationaux du FRA 2025.
La Côte d'Ivoire s'est donc félicitée de cette initiative de la FAO qui, selon le ministre des Eaux et Forêts, contribuera à l'amélioration du couvert forestier ivoirien. Laurent Tiagba.
Nous attendons beaucoup des résultats de cet atelier parce que ça va nous permettre d'actualiser les données au niveau ivoirien pour que des dispositions soient prises par anticipation pour prévenir des catastrophes.
La Côte d'Ivoire est entièrement engagée dans le processus d'évaluation des ressources forestières mondiales et a pris des mesures idoines pour l'élaboration de son rapport national, a rassuré le ministre Laurent Tiagba.
Depuis hier, se tient à Abidjan un atelier régional sur les minerais stratégiques de l'Afrique. Cette réunion d'Abidjan à l'initiative de l'ONG Chatham House et de Konrad Adenauer vise à faire en sorte que les pays africains bénéficient réellement de la croissance des matières premières vertes. En conséquence, les gouvernements des pays africains doivent créer des environnements d'investissement attractifs fondés sur des institutions solides qui garantissent la participation de toutes les parties prenantes ainsi qu'une allocation transparente et responsable des rentes des ressources. Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, sur les enjeux de la réunion d'Abidjan.
D'abord, il y a tous ces minéraux qu'on appelle critiques ou stratégiques, qui sont en tout cas pour nous, pour l'Union européenne, fondamentaux pour la transition énergétique, la transition verte et digitale, parce qu'ils rentrent dans les batteries, dans les véhicules électriques. Donc c'est vraiment pour développer notre transition verte que nous sommes intéressés à ces minerais. Mais nous voulons le faire de façon durable, c'est-à-dire que nous n'allons pas juste venir extraire, repartir. L'idée, c'est vraiment d'appuyer tout l'écosystème, faire des partenariats bilatéraux avec les pays qui en ont et faire un partenariat qui regarde, oui, l'extraction, mais aussi les compétences locales qui peuvent être développées pour travailler dans cette chaîne de valeur, pour faire aussi déjà de la transformation au niveau local, pour que justement la valeur ajoutée soit créée ici et pas ailleurs, en Europe ou dans d'autres pays où c'est exporté brut, et aussi dans le plein respect des standards environnementaux et sociaux. Parce que ça, c'est critique pour nous. Nous voulons qu'on ne va pas détruire une forêt pour aller extraire du zinc ou du manganèse. Voilà, ça c'est un peu l'objectif. Et on veut vraiment que c'est les revenus, les recettes qui arrivent de ces secteurs puissent être justement bien gérées dans les finances publiques et réinvesties dans le reste de l'économie.
Le projet d'adressage du district d'Abidjan-Pada est la thématique au menu de la tribune d'échange du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommé Tout savoir sur. Alphonse Nguessan, directeur de l'adressage, était l'invité de ce rendez-vous digital. Il a pu résumer ce qu'il faut comprendre. Des explications détaillées ici par Mata Touré.
Tout d'abord, retenons que la Côte d'Ivoire a choisi le système métrique pour son adressage. Le numéro adressé sur votre porte correspond à la distance en mètres entre l'entrée de votre bâtiment et le début de la voie qui passe devant chez vous. Ensuite, les numéros pairs sont à la droite de la voie et les numéros impairs à sa gauche. Côté exécution du projet, on semble bien avancé. C'est ce que nous confirme Alphonse Nguessan, directeur de l'adressage.
Il y a déjà 2400 noms qui sont validés. Les noms de 32 boulevards qui couvrent l'ensemble du territoire d'Abidjan, 211 avenues qui couvrent également le district d'Abidjan et puis un peu plus de 2000 noms qui portent sur des rues, des communes. Au jour d'aujourd'hui, tous les boulevards d'Abidjan et toutes les avenues d'Abidjan ont les noms qui sont connus. C'est l'Université d'Abidjan qui a trouvé les noms et puis les noms des rues de toutes les communes du sud et du centre sont aujourd'hui connus. C'est-à-dire où on a déjà fini les enquêtes, on a déjà fait le pochage, on va tirer le certificat et puis aller remettre à toutes les maisons qui sont dans la zone 1 pour dire dorénavant, voici ton adresse.
Toutes ces informations sont partagées par des utilisateurs comme Google ou encore les e-commerce et bien d'autres. 14 000 voies et 500 maisons ou unités d'occupation ont déjà été répertoriées. On rappelle que le coût du projet est de 10 milliards de francs CFA et concerne toute l'étendue du territoire ivoirien et est prévu durer 3 ans. 350 personnes ont déjà été recrutées pour l'exécution de ce projet.
Actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le Parlement autorise l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Le projet de loi autorisant cet envoi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition lors d'une séance plénière tenue hier mardi 19 septembre 2023. Cette adoption confère désormais un cadre juridique au déploiement de troupes militaires du Burkina Faso au Niger, dont la mission principale est d'apporter une assistance militaire en cas d'agression ou de déstabilisation armée extérieure, ainsi que de lutter contre le terrorisme. Place à présent à l'invité de la rédaction. Radio de la Paix va donner, à partir d'aujourd'hui, la parole à certaines chapelles politiques après les élections sénatoriales du 16 septembre dernier pour le renouvellement des deux tiers du Sénat ivoirien. Aujourd'hui, la parole est au RHDP qui a remporté 56 sièges de sénateurs élus sur les 64 qui étaient en jeu. Le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP, Doumbia Brahima, répond aux questions de Soro Adams sur le scrutin du 16 septembre et sur le score de son parti.
Bonjour Monsieur Doumbia Brahima.
Bonjour mon frère Soro.
Ainsi donc, au lendemain des élections sénatoriales du 16 septembre 2023, c'est la joie, la grande joie dans les rangs du RHDP, votre parti.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est justifié que nous puissions être contents à l'issue donc des élections sénatoriales qui viennent confirmer l'implantation du RHDP sur l'ensemble du pays. Mais ces résultats aussi viennent confirmer l'adhésion des populations à la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est par ailleurs président du parti.
Et quels sont vos résultats?
Bien, vous avez vu qu'au niveau des élections municipales, nous avons pu obtenir 123 communes. Au niveau des élections régionales, 25 régions. Et puis au niveau donc des sénatoriales, sur 64 sièges qui étaient à pourvoir, le RHDP a obtenu 56. Donc je pense que c'est un résultat qui mérite d'être salué et qui mérite également qu'on soit heureux.
Et quelle lecture donnez-vous de cette mainmise totale du RHDP sur la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire sur le Sénat?
Non, c'est le fruit du travail du RHDP, des responsables du RHDP, du président de la République. Cela traduit l'adhésion, comme je l'ai dit plus haut, des populations à la politique de développement économique, social, culturel, sportif, enclenché par le président de la République depuis son accession au pouvoir. Moi, je vois en cela le fait que les Ivoiriens sont de plus en plus contents du travail et qui le lui ont manifesté lors de ces élections.
Alors, M. Doumbia Brahima, à la lumière de ces résultats des sénatoriales, comment voyez-vous 2025, année de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire?
Bien, nous souhaitons que les Ivoiriens confirment ce qu'ils viennent de faire lors de ces élections à mi-mandat, qu'ils confirment cela lors de l'élection présidentielle. Mais en tout état de cause, le RHDP est un parti qui prépare avec beaucoup de sérieux les élections. Nous allons préparer minutieusement les élections présidentielles et le gouvernement, sous l'impulsion donc du président de la République, va continuer son travail pour le bien-être donc des Ivoiriens. Et donc nous avons beaucoup d'espoir et nous sommes confiants que les Ivoiriens continueront avec le RHDP.
Un candidat de taille et de poids de votre parti, Aoussou Jeannot, le président du Sénat, a été battu à ses sénatoriales. Qu'est-ce que ça vous dit?
Bien, c'est un résultat que je qualifierais donc de malheureux, mais ce sont les élections. Il y a deux issues possibles, soit la victoire ou la défaite. Nous constatons que nous avons perdu dans cette région, dans la région du Bélier. Bien, nous en tirerons toutes les leçons pour mieux préparer les scrutins à venir.
Mais êtes-vous surpris par cette défaite du président du Sénat?
Oui, à titre personnel, je le suis.
Parce que?
Théoriquement, il devait gagner ces élections. Quand nous regardons la composition donc, du corps électoral, c'est pour ça que je dis que nous en tirerons toutes les leçons pour mieux préparer les échéances futures.
Il y a eu une grande division dans vos rangs, les rangs du RHDP.
Nous analyserons tous ces résultats. Et à la lumière de nos enquêtes, de nos informations, je pense que le parti prendra certainement les mesures qu'il faut pour ne pas que cela se répète.
Défaite au régional, défaite au sénatorial, que deviendra donc le président Aoussou Jeannot?
Je ne peux pas vous dire ce qui deviendra. Une défaite électorale ne met pas fin à la vie, ne met pas fin au travail politique, ne met pas fin à une carrière. Donc, je pense que l'avenir n'est pas bouché, l'avenir n'est pas sombre.
Pour qui?
Pour le président Aoussou.
Je vous remercie, M. Doumbia Brahima.
C'est moi qui vous remercie.
Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP, en entretien avec Soro Adams. Nous sommes au terme de ce journal, voici le rappel des titres. Les conseillers municipaux du département de Biankouma étaient dans les urnes hier mardi pour procéder à l'installation de la nouvelle équipe pour les 5 années à venir. Nous en avons fait cas dans ce journal. La FAO initie une rencontre sur l'évaluation des ressources forestières mondiales à laquelle participent 25 correspondants des pays d'Afrique francophone. Un atelier sous-régional qui se tient du 18 au 21 septembre 2023 à Grand Bassam. Fin de cette édition, rendez-vous à 15h, tout de suite, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Le drame